Sur les... Tu l'as déjà mis? Donc j'ai choisi les âmes toujours avec nous. Donc en gros, j'ai fait un enseignement sur les âmes, notre âme et l'âme des autres personnes. Mais voilà, s'il y a des généralités sur l'âme, quoi, en gros.
Merci.
Et donc, une petite définition de l'âme. On peut dire c'est une entrée dans le sacré. Ce qui est plus grand que nous et qui nous dépasse. Ça, c'est une des définitions. Il y a tellement de définitions différentes à travers différentes religions et différentes sagesses. Je les ai toutes réunies pour trouver quelque chose qui est un élément commun à tout ça. Peut dire c'est le siège de notre spiritualité, l'âme, vue par les Occidentaux. Il y a. Donc, Frédéric Lenoir parle du sacré. Il a une bonne définition. Alors, c'est le théologien allemand, philosophe allemand Rudolf Otto qui parle du sacré et qui parle aussi de l'âme. Et le sacré qui a été élaboré, donc, c'est le sentiment universel d'émerveillement et de crainte que l'être humain ressent durant le mystère de la vie et de la mort, de la beauté et la puissance de la nature, la voûte céleste et l'harmonie du cosmos. Et c'est l'âme en nous qui se nourrit de tout ça. Ce sentiment très profond n'est pas une croyance, mais un ressenti, une émotion. Il suffit de voir un enfant naître, de perdre un ami ou un parent, de regarder un coucher de soleil. C'est ce sentiment très profond qui est vécu. Il est à l'origine de toutes les quêtes spirituelles et religieuses de l'humanité. Il est la matrice de tous les questionnements spirituels et religieux ultérieurs. Voilà. Donc, quand je parle de l'âme, je parle beaucoup du sacré. L'âme est la nature féminine de notre être, dit un auteur. Je ne me souviens plus de son nom. Ah oui, c'est Judith Gee, Gee. Pour elle, l'âme, c'est la présence. Et pour elle, l'esprit qui anime le corps et l'esprit, c'est la conscience. Donc l'âme, là, pour différentes personnes, c'est différent. Mais là, sa façon de décrire l'âme, c'est la présence. Donc quand on est présent à ce qu'on vit, à ce qui se passe ici et maintenant, il y a l'âme qui se réjouit, quoi, et qui est nourrie. Le but de l'âme, dit-elle, est la sagesse, et c'est à travers la relation qu'elle y parvient. Donc ça peut être une relation charnelle ou amicale ou familière, familiale ou autre avec un individu vivant, mais ça peut être aussi une relation avec un individu qui n'est pas vivant, avec quelqu'un qui est mort déjà. Mais on a la même relation, ça ne nous change pas que la personne soit vivante ou morte, elle est vivante dans notre âme. C'est cette relation qu'on a à cette personne qui est justement nourrie, qui est le langage de l'âme. Voilà. Bon. Alors, j'ai entendu aussi que c'était une partie de nous qui se détachait à la mort. C'est quelque chose qu'on retrouve en Asie, à travers le brahmanisme et le bouddhisme. Et chez les Tibétains, elle met 40 jours, 40 à 48 jours à quitter le corps. Et il ne faut pas, justement, pendant ces 40 jours chez les Tibétains, il faut vraiment respecter le corps et vraiment être à l'écoute et vraiment lui laisser la place, parce qu'il est en train de lâcher cette âme qui part. S'il y a des personnes qui résistent, qui ne veulent pas que la personne parte, mais une personne déjà morte, mais qui continue à insister, à essayer de communiquer. Ce qui se passe, c'est que l'âme de cette personne qui est morte va l'entendre et ça va la torturer. Et donc, il faut vraiment faire attention après la mort. Il faut laisser l'âme prendre son envol librement et il faut lui permettre, il faut lui dire je te libère. Alors bien sûr, si les personnes dans la vie ont été violentées, trucidées, elles sont mortes dans des guerres ou qu'il y a eu d'autres délits qui ont été commis sur elles, bien sûr, ces âmes vont être tourmentées et ne vont pas pouvoir quitter ce corps physique. Et ce sont des âmes errantes, finalement, qui deviennent des fantômes et tout ça. Donc ça, c'est une façon de penser. Moi, je le crois profondément, mais ce n'est pour moi qu'une croyance. Une autre personne peut dire non, ça n'a pas lieu, tu ne peux pas le vérifier scientifiquement, c'est vrai. Donc, je parle à partir de ce que je crois, uniquement. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est les aborigènes. Ils sont magnifiques. C'est dans le livre « L'âme du monde » de Frédéric Lenoir, justement, « L'âme du monde ». C'était un ethnologue qui était parti avec son équipe occidentale voir les aborigènes, les filmer, les suivre, apprendre d'eux. Et alors donc, les aborigènes, ce groupe, se déplacent. Ils marchent quelques heures. Et puis, à un moment, ils s'arrêtent. Alors l'ethnologue regarde autour de lui, il ne se passe rien, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas d'ombre, il n'y a aucune raison pour s'arrêter. Il ne comprend pas, et puis finalement, le groupe reprend. Et ça arrive comme ça, plusieurs fois dans la journée, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Alors ils demandent, ils leur demandent, et les aborigènes répondent, pour attendre leur âme. Alors ce qu'ils expliquent, c'est que parfois ils s'arrêtent en chemin pour regarder, pour sentir, pour écouter quelque chose qui échappe au corps. Alors le corps continue la marche mécaniquement. Et ce qui se passe, c'est qu'en s'arrêtant, parfois une heure, paraît-il, l'âme errante a la possibilité de les rattraper. Donc il laisse le temps à l'âme errante de venir les rattraper. C'est formidable, hein ? J'adore. Alors, chez dans la religion brahmanique, tout ce qui a trait au Veda, au yoga, ce qui se passe, c'est qu'on a une âme individuelle, la façon dont il l'explique, qui s'appelle Jivatman, J-I-V-A-T-M-A-N. Cette âme individuelle ou conscience individuelle, c'est comme si on était une petite vague dans la mer. Hein? Et ce qui se passe, c'est que à notre mort ou pendant l'illumination, différents aspects, cette âme individuelle va rejoindre l'âme universelle. Et ça, c'est Atman. Et Atman, c'est le Dieu. C'est le nom qu'il donne au Dieu. Alors là aussi, les Indiens, dans le yoga indien, on parle de niveau de conscience ou d'état. Et comme je vous avais dit aujourd'hui, il y a cinq corps. On a cinq corps, d'après eux. Donc on a le corps physique, ensuite le corps énergétique, celui de la respiration, ensuite le corps mental, avec l'affect, les émotions, les ressentiments, les pensées... Tout ça. Et ensuite, le quatrième corps, c'est le corps de l'intuition. Et il se manifeste quand nous apercevons l'âme. C'est à ce niveau pour eux qu'on commence à appréhender l'âme. Quand nous prenons conscience de l'observateur en nous. Vous voyez, c'est l'hypercognition, c'est-à-dire qu'on, dans la méditation, on est capable de se regarder en train de penser ou d'avoir une certaine émotion. On est capable d'avoir ces deux parties du cerveau qui travaillent ensemble. Et disons que la partie qui observe, c'est l'âme. Dans les textes védiques, il est bien décrit de la sorte... ces deux états d'esprit, deux oiseaux sur une branche. L'un observe, l'autre picore. Ou l'un picore, l'autre observe. Et bien c'est ça. Et l'âme, donc, ça serait l'oiseau qui observe. Celui qui picore, c'est celui qui est dans la vie courante et qui nous entraîne dans des choses pas possibles, quoi, finalement. Alors, ce qui est dit, c'est que dans la méditation, le taux de cortisol et d'adrénaline baisse ça on le sait, la pression artérielle baisse et les défenses immunitaires augmentent. Dans ce quatrième niveau, nous pouvons entrevoir l'âme et préserver et pressentir l'amorce de la synchronicité. Là, on commence à trouver des... à vivre des choses qui s'alignent. Et qui ne sont pas dues au hasard. Non plus. Dans le yoga Vashishta, c'est une autre philosophie du yoga qui donne tous les asanas, qui donne tout. C'est très bien écrit. Je l'ai, c'est un livre d'à peu près 150 pages. L'âme de toute chose. Il parle de l'âme de toute chose. L'univers est un gigantesque reflet de nous-mêmes. Dans notre propre conscience. Ça, c'est l'âme de toute chose. L'univers est un gigantesque reflet de nous-mêmes dans notre propre conscience. Et ça, c'est l'âme. Alors, notre âme est venue sur Terre pour s'incarner dans un corps terrestre. C'est comme ça qu'on l'entend dans notre système, en Occident, quoi. Et alors là, on peut se demander quel est le but de notre vie. Pourquoi s'incarne-t-on dans ce corps terrestre? Quel est notre but? Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? Ça, c'est bien de se poser ces questions. Parce que c'est notre âme qui a choisi de venir sur Terre. Et cette âme, on peut la voir dans le rôle des vrais aînés, des personnes qui ont vécu beaucoup d'années avant nous. Et qui sont encore là, et qui l'incarnent mieux parce qu'elles sont plus alignées avec leur âme, parce qu'elles ont fait plus de travail, hein, avec des personnes qui sont cohérentes avec une certaine spiritualité, bien sûr. Et ça, cela peut aider à se préparer, à découvrir, à incarner nos âmes personnelles. Et nous aider à formuler notre rôle sur Terre, finalement. Ces aînés peuvent nous aider. Alors là, ça mène à l'âme du monde, qui s'incarne quand nous plaçons notre conscience sur les besoins du monde plutôt que sur nos petits besoins personnels. C'est là qu'on arrive à une conscience universelle. Prendre soin de l'âme du monde, c'est le défi du 21e siècle. Cela peut dégénérer. Alors là, ça, c'est intéressant. Je l'ai écrit parce que vraiment, c'est différent de ce qu'on pourrait imaginer. Comment travailler avec la haine et la colère. Ça vient des bouddhistes tibétains qui parlent directement de la pure compassion. Alors ils disent, cela peut prendre soin de l'âme du monde, mais tellement un défi, que cela peut générer une colère mature et promeut la clarté, motive l'action constructrice et corrective aussi. ainsi que la compassion pour ceux qui souffrent. Hein, quand on voit les inégalités qui existent dans le monde, ces milliardaires et puis ces personnes au Sahel qui mettent une demi-journée à aller chercher de l'eau pour avoir deux mugs d'eau à boire, et puis tout le reste, c'est pour faire la cuisine, mais c'est terrible. Il n'y a même pas l'argent pour faire un puits, il n'y a rien, quoi. Donc ça peut provoquer aussi beaucoup de colère. Cette colère mature est complètement distincte de la haine. Elle est complètement distincte de la haine et dérive, comme le disent les bouddhistes tibétains, directement de la pure compassion. Donc là, ça vient du fait que finalement, par empathie, on ressent toute la souffrance et l'horreur de cette injustice chez les peuples qui n'ont plus rien, quoi. Tellement les denrées sont chères, la nourriture est trop chère, ils ne peuvent plus se payer, ils meurent de faim. C'est à s'arracher les cheveux. Et là, ils disent, on peut avoir une colère mature, c'est sain. Et ça permet de promouvoir la clarté et de motiver l'action constructrice et corrective aussi. Florence aurait bien beaucoup aimé tout ça parce qu'elle a fait tout ce travail en Éthiopie dans l'humanitaire. Alors c'est là où finalement on prend soin de l'âme du monde avec l'écologie, avec notre spiritualité, avec la méditation, on cherche un moyen. Et c'est Bill Plotkin, c'est un psychologue initiatique. Il parle de les soins, prendre soin de l'âme du monde. Il dit, il faut une affirmation des droits inaliénables de tout le vivant. Inaliénable. On ne le fait pas encore, hein. On en est très loin. L'âme est la plus vaste conversation qu'on est capable d'avoir avec le monde. Il s'agit de ranimer une image intérieure qui illumine notre voie et notre destinée. Parce que où on va là? On va droit dans le mur. Il s'agit de reconnaître notre rôle sacré et incarné à un effet que ce rôle a un effet direct sur l'âme du monde. Ce qu'on fait, si on fait quelque chose d'incarné et de sacré, a un rôle direct sur l'âme du monde. On peut agir à partir de notre présence sacrée qui nourrit, qui transforme et harmonise l'âme du monde. Donc, tout ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'être humain, c'est important de savoir que on nourrit l'âme du monde. C'est quelque chose de sacré, quoi. Donc, tout ça, c'est aussi Joanna Macy qui en parle beaucoup. J'en ai déjà parlé de cette personne américaine.
Macy, ça s'écrit
Macy, M-A-C-Y.
Merci.
Donc, il y a 2-3 livres qui ont été traduits en français par elle.
Et
Le travail qui relie.
C'est celle qui est hypnothérapeute quantique, là, non?
Non.
Non, pas du tout.
Non. Joanna Macy, elle est bouddhiste. C'est elle qui nous a a partagé avec nous en anglais, et ensuite moi je vous l'ai traduit, la grande balle des mérites.
Ah oui.
La méditation sur la grande balle des mérites.
Oui.
La grande boule des mérites. Donc, prendre soin de l'âme du monde et faire des pratiques qui éveillent l'âme. Et ces pratiques, il y a des rituels, il y a des chants, il y a des chansons, il y a des dessins, il y a l'art. C'est magnifique. L'art, c'est Paul Klee qui l'a dit. Il ne reproduit pas le visible, il rend visible. J'adore. Ben c'est ça l'âme. Donc, et dans ce travail sur l'âme et l'âme du monde, bien en tout cas, ça apporte quelque chose parce que ça brise l'isolement social. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent justement d'être isolées. Et c'est ce chemin qu'il faut prendre. Ce sont des pratiques qui créent le chemin de la compréhension, de la communication. Alors, quelle que soit notre origine, notre histoire, nos croyances, ou appartenance, nos traditions, ils nous scindent vers un collectif symbolique. Ça crée une âme du monde qui enlace et qui rassure. Donc ensemble, nous sommes bien plus que la somme de chacun de nous. C'est là où c'est important de participer à des groupes qui vont petit à petit générer une force d'âme. J'appellerais ça comme ça. C'est un langage qui traverse les strates culturelles, sociétales, archétypales et spirituelles de notre vie contemporaine. Et donc, tous ces liens sociaux qu'on peut créer nous donnent le sentiment d'harmonie qui ouvre le cœur vers des aspirations et des valeurs essentielles. C'est là où on retrouve chez l'autre peut-être des choses qui lui sont très importantes, mais on n'a pas mis le doigt dessus parce que c'est pas tangible. Donc, tout ce travail apporte un baume et nourrit le besoin de nous souvenir, de commémorer ou de marquer des changements importants dans la vie. Et c'est là où, quand on parle de l'âme des défunts qui nous sont chers et qu'on veut les honorer, c'est très important de le faire. C'est très important de les honorer à la date où ils sont partis, à la date où on les a rencontrés, à la date où... Je ne sais pas, moi, c'est des choses très personnelles, tout ça. Mais ça se fait... C'est quelque chose qui participe à l'âme, notre âme, et aussi l'âme du défunt. C'est quelque chose qui ne meurt pas. Et plus on le pratique... plus on fait grandir cette âme et cette connexion. C'est là où j'avais déjà parlé des chants des Indiens. Quand une personne vient de naître, on lui crée un chant. Et toute sa vie, on va chanter son chant. C'est un peu son âme, quoi. Et donc, quand elle meurt, on chante son chant. Et plus tard, quand on veut se la remémorer, on peut chanter son chant. C'est cette personne particulièrement. Et j'aime bien l'image que je m'étais créée pour, en me disant que finalement l'âme, c'est le champ. Et le corps, c'est la partition. Même si on brûle la partition ou elle est perdue ou quelque chose, peu importe, le champ sera toujours là, il sera toujours vivant. Et ça, j'aime bien. Le corps s'en va, on meurt, mais l'âme est toujours là. La 9e symphonie de Beethoven, elle est toujours là. Pourtant, Beethoven, il est mort il y a longtemps. Voilà, donc, c'est la force de l'âme, c'est ça qui reste finalement. Et donc il y a un certain activisme de l'âme qu'on a besoin de mettre en place. On a besoin de comprendre, parce que ce rapport intérieur à ce qui nous dépasse, comme on ne peut pas mettre le doigt dessus, c'est quelque chose, il faut lui donner de l'importance. Tous les jours. Ça me rappelle par exemple, tous les matins, en Inde, les femmes font des dessins à la craie ou je ne sais pas quoi, par terre, avec de belles choses, tous les matins. Elles font, il y a les prières, il y a la bougie, la lumière. Il y a des tas de...
Et qu'est-ce que c'est ces dessins ? Ça représente...
C'est des dessins, je ne sais pas, j'y étais pas, j'en ai jamais vu, mais c'est la beauté.
D'accord.
Et l'âme, elle se nourrit de la beauté. Alors c'est aussi l'activisme de l'âme, c'est éveiller une relation tangible avec le divin, c'est nourrir les forces invisibles derrière toute vie visible, hein, comme la grande balle de mérite, la grande boule des mérites, c'est réactiver dans notre esprit et dans notre cœur des souvenirs, des vécus, des émotions face à des choses qu'on a connues ou qu'on veut connaître. On n'était pas forcément là quand l'événement est arrivé, mais si on lit sur la question et qu'on peut réactiver cette connexion dans notre cœur. On n'a pas besoin d'avoir été sur place. Donc, c'est important de suivre des visionnaires pour ce genre de travail. Ça nous aide. Je dirais, Martin Luther King, pour moi, c'est magnifique. Son fameux discours, c'est « I have a dream ». Ça, c'est son âme. « J'ai un rêve, je vais vous en faire part ». Que tous les hommes et les femmes de cette terre puissent être ensemble, égales, sans conditionner, sans voir la différence de statut social, ou de couleur de peau ou autre. Et tout son discours est comme ça. Et il dit, et je rêve que mes enfants vivent dans ce monde. Et finalement, son rêve est devenu vrai. Jusqu'à un certain point, mais vrai, ça met du temps. Oui, pardon ?
Pas vrai complètement, quand même.
Pas complètement, bien sûr. Ouais. Mais pour changer l'être humain, il y a une sacrée dose. Hein. Oui, donc, un autre visionnaire que personne ne connaît, hein, il s'appelle... Guilherme Fernandez. Il a fait 39 jours de jeûne. C'est énorme. En général, 21, c'est maximum. Après, il faut vraiment voir comment tu te sens, parce que le corps ne peut pas jeûner aussi longtemps. Il a fait ce jeûne devant le palais fédéral de Berne, en Suisse, pour que le Parlement suisse soit formé par des experts du GIEC. Activité de l'âme. Au cœur du désastre, l'entraide et la coopération l'emportent sur la violence et la compétition. Donc vous voyez, ça, c'est un seul homme qui a fait ça devant le palais fédéral de Berne. Et je crois qu'il a réussi à avoir ce qu'il demandait. Il a eu des représentants du GIEC pour parler vraiment de la situation du réchauffement climatique, afin que les lois soient changées en Suisse. Et pour finir, il y en a un autre, une grande âme, c'est Gandhi. Et il dit, c'est super à s'en souvenir ça, toute âme qui s'élève, élève le monde. Voilà, on a tout dit. Ah oui, il y avait aussi cette petite chose, 22-23. Oui, les rituels, tout ce qui peut aider, qui prévient l'isolement social et qui protège de cela. Ce qui est dit, c'est en neurologie, de faire ces rituels, de faire ces belles choses pour nourrir l'âme. Cela désactive le cortex singulaire antérieur, on appelle le CCA, celui qui provoque une réaction en chaîne où les amygdales cérébrales génèrent des signaux d'alerte qui se manifestent par de l'anxiété. Les glandes surrénales sont alors stimulées, ce qui a pour effet d'augmenter la sécrétion de cortisol et de noradrénaline, deux hormones qui participent à la réaction de stress et préparent le corps à se défendre face au manque de prédictibilité de l'environnement. Seulement, là, on se met, quand on n'active pas, on désactive pas ce cortex singulaire antérieur, on finit par tomber dans une prison de sauve-qui-peut, de terreur, de peur, de réaction immédiate, non pensée, et il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien. On devient des animaux. C'est là où c'est vraiment très important de travailler sur quelque chose qui va nous aider à sortir de ces fonctionnements automatiques de survie, qui sont mis en place neurologiquement depuis la nuit des temps, bien sûr. On est branché comme ça, mais on peut débrancher. Et ça, la méditation peut le faire. Voilà.
C'est sûr.
malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés de le débrancher.
Et c'est surtout que la société...
Attends, je vais teinter la clochette.